Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Margot, c'est la migration qui l'anime, et vous le constaterez vite, elle en parle avec beaucoup de passion. On a essayé d'évoquer dans cet échange ce long parcours du combattant auquel sont soumis les étrangers. Les demandes d'asile qui aboutissent, les obligations de quitter le territoire, l'importance des coutumes, de la culture, de la religion, mais aussi les conditions d'accueil aux conditions de travail qui épuisent. Pour les étudiants, Margot évoque également sa dernière année de formation en Espagne, si ça peut vous ouvrir des perspectives. Je vous laisse découvrir son témoignage. Merci à elle et belle écoute à vous.
Bonjour Margot et bienvenue dans La Voix des Invisibles. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, nous dire ton prénom, ton âge et qu'est-ce qui t'a amené à œuvrer dans le travail social.
Bonjour Camille, merci à toi pour ton accueil. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Margot, j'ai 33 ans. Je suis assistante sociale depuis 11 ans, diplômée de 2011. Et je suis allée vers le champ du social un petit peu naturellement, donc plus ou moins, puisqu'au lycée, on avait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai fait un test d'intérêt au CIO. À l'époque, c'était possible de faire des tests d'intérêt. Et tous mes intérêts étaient visiblement vers le social. Donc, en me renseignant un petit peu vers les métiers... du social, j'étais plutôt au départ attirée par le métier d'éducateur spécialisé d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça m'a amenée à passer les concours.
D'accord, et pourquoi, c'est vraiment une question à l'ancienne, mais pourquoi du coup t'as choisi assistante sociale plutôt qu'éducateur ?
Eh bien c'est pas vraiment moi qui ai choisi.
D'accord.
Parce que j'ai passé plusieurs fois les concours et la dernière fois, un peu en désespoir de cause, j'ai passé tous les concours du social et j'ai eu assistante sociale, donc je suis rentrée en formation comme ça.
Ok, très bien. Donc tu rentres en 2008 en formation. Tu fais ta formation où ?
À Nancy, en Lorraine.
Ok. Quelles ont été un peu tes premières impressions quand tu es rentrée à l'école ?
Je crois que je me suis sentie à ma place et avec des gens qui me ressemblaient et qui avaient les mêmes envies que moi. Et c'était vraiment très agréable aussi d'être hyper intéressée par les cours, tout ce qu'on pouvait voir. Il y avait quelque chose d'alléchant en fait, en tout cas dans tout ce qu'on pouvait nous proposer.
Mmh, ok, d'accord. Tes premiers stages, tu les vis comment ? Ton premier stage, tu le fais où ?
Alors, mon tout premier stage, c'était pas vraiment un choix de ma part parce que dans notre formation, c'était l'école qui trouvait les stages et on devait négocier avec les autres étudiants. Pour voir qui allait où.
D'accord.
Et il se trouve qu'il y avait un stage dans la ville où je vivais. J'étais la seule à vivre dans cette ville-là, donc c'est moi qui l'ai eu. Donc j'ai fait mon premier stage à la CPAM.
D'accord, ok.
Ça m'a pas ravie. C'était pas du tout ce que j'envisageais, en tout cas pour mon métier, mais ça m'a quand même permis d'avoir une première approche du métier de l'assistante sociale. De voir des premiers entretiens, de voir différentes problématiques. Et ça avait quand même confirmé mon choix de formation.
Mais ça, tu t'es pas dit au bout du premier stage, oulala, non, pas du tout, c'est pas du tout.
Je me suis dit, oulala, pas du tout à la CPAM, mais oulala, ce métier a l'air merveilleux.
Ok, bon, bah, super de sortir d'un premier stage comme ça, même si on n'est pas emballé par le lieu, ça c'est top. Ok. Et ton deuxième stage, tu choisis, tu choisis pas?
Mon deuxième stage, c'était aussi un peu particulier parce que moi, j'avais fait mes propres recherches et j'avais réussi à décrocher un stage dans un CMP enfant. Mmh. Mais mon école, on a décidé autrement, ce qui fait que une semaine avant mon stage, j'avais pas de stage. Mmh. Ils ont refusé que j'aille au CMP. Et j'ai une très gentille assistante sociale qui a accepté de me prendre au pied levé.
Ok.
Donc en secteur, en CMS.
D'accord. Donc conseil départemental, polyvalence de secteur, ok. Et comment tu le vis ce deuxième stage très polyvalent, du coup très large, où tu
vois plein de choses. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai appris. Pour moi, c'est là où j'ai appris la grosse base du métier.
Ouais.
Très polyvalent, mais on faisait vraiment de tout. On était dans une zone assez urbaine, dans un quartier prioritaire de la ville.
Ouais.
Et du coup, avec des publics divers et variés, donc j'ai pu toucher aussi bien à des personnes en grande précarité, des personnes au RSA, on a fait beaucoup de protection de l'enfance. Il y avait beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur ce lieu de stage, et notamment en termes d'entretien, de techniques d'entretien, de partenariat. J'ai pu aussi un peu vadrouiller avec les différents professionnels qui composent le CMS, mmh. Comprendre aussi la richesse du travail d'équipe. Et c'est vraiment un stage qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu.
D'accord. Ok, bon. C'est top quand les stages sont positifs comme ça. Et c'est vrai que très souvent, les retours des stages en polyvalence, on se dit qu'on a une base. Et oui. Tu l'as très bien dit. Enfin, je trouve que c'est le mot qui revient très souvent quand on fait de la polyvalence. Ok, dernier stage de formation. Tu le fais où?
Alors, je le fais en Espagne.
Ok.
Parce que j'ai fait le choix de faire Erasmus en troisième année.
Ok.
Qui n'est pas forcément la meilleure idée. Je ne le conseillerais pas forcément. Enfin, pas
c'est une année riche, effectivement. C'est une année assez importante. Cela jouer à l'étranger, c'est courageux.
Après, c'était maintenant ou jamais. J'avais toujours voulu le faire. C'était ma dernière chance, entre guillemets, de pouvoir faire Erasmus. Donc... Donc je l'ai fait au risque de pas avoir le diplôme ou de louper mon année. C'était pas, je m'étais dit que le jeu en valait la chandelle. Donc c'était un stage un peu particulier parce que en Espagne les études fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc les stages sont beaucoup plus courts chez eux. Donc là ils ont dû accueillir une stagiaire pendant 7 mois sur un lieu de stage. Alors moi je voulais essayer de toucher le milieu du handicap. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans ce qui pourrait être l'équivalent d'une MAS en France.
Donc, une MAS, tu peux donner...
Une maison d'accueil spécialisée, donc pour des personnes handicapées. Là, en Espagne, on accueillait des personnes avec des handicaps moteurs, mentaux, sensoriels. Vraiment tout type de handicap. Okay. Et ça allait de 18 à 60 ans.
D'accord, oui, donc hyper large.
Hyper large, une très grosse structure, avec une seule assistante sociale qui travaillait plutôt avec les familles. Et où il a été assez compliqué pour moi de pouvoir vraiment travailler et avoir une place auprès des familles ou auprès du public. Donc ce que je faisais plutôt, c'est que pendant ce stage-là, je suis beaucoup allée avec les éducateurs.
Ouais.
Pour faire des activités avec le public et essayer un petit peu d'avoir du lien.
Tu étais bilingue espagnol, j'imagine ?
Absolument pas en arrivant.
Ah, ok. Effectivement, gros challenge du coup.
C'est ça. Et puis il y avait toute une partie, enfin, j'étais pas en stage toute la semaine non plus, donc ça rajoutait de la difficulté.
Ouais.
Parce qu'on avait aussi des cours, je devais aussi suivre des cours à la fac.
Ok. Je ne savais pas du tout que c'était possible de faire Erasmus en formation de travail social, alors il y a 10 ans, mais je savais pas.
En tout cas, à mon époque, c'était pas encore assez, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était pas encore assez travaillé, ni réfléchi. Oui. On était un petit peu, on était envoyés, on avait un stage, etc. C'était super, mais derrière, il n'y avait pas vraiment de suivi. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Parce que j'avais et le stage et la fac espagnole et les écrits et les travaux qu'on nous demandait pour la troisième année à l'IRTS. Ça faisait beaucoup de choses et du coup tu te sens un peu seule.
Bien sûr. Vous n'êtes pas partie à plusieurs, je sais qu'il y en a souvent qui...
Ouais, non, je suis partie toute seule.
Seule, sans maîtriser la langue, vraiment courageux, bravo.
Merci. Courageux ou un peu têtu sur le coup. Je crois que je voulais vraiment vivre cette expérience-là et que j'ai pas pris la mesure de ce qui risquait de se passer. Mais c'était au final une très bonne expérience, que j'ai appris beaucoup de choses sur moi.
J'imagine, ouais, aussi du coup.
Et comme j'étais encore assez jeune, je pense que c'était quand même une bonne chose et assez formateur.
Est-ce que tu retiens de ces 3 ans de formation des rencontres qui ont compté pour toi ?
Oui. Alors, j'ai écouté un des podcasts de La Voix des Invisibles tout à l'heure et en fait, je trouvais que ce qui revenait aussi beaucoup, et pour moi, c'est une réalité, c'est les collègues de promo. Oui. Donc, il y a beaucoup... Il y a beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes. Moi, je sais qu'on avait un petit groupe d'amis qui s'est forgé au fur et à mesure, et on avait une solidarité qui était assez, assez extrême. Et ces rencontres-là ont été très importantes dans ma formation. Elles sont encore très importantes aujourd'hui, 11 ans après. Donc, je pense que si je retiens des rencontres, c'est vraiment celle-ci. Je pense qu'on a eu le diplôme ensemble. Il y a un vrai soutien qui s'était mis en place. Les unes avec les autres, et au gré de discussions, des évolutions, enfin, chacune a pu faire évoluer les autres en fonction de ses propres expériences ou des points de vue qu'on pouvait échanger. Et vraiment, c'était...
C'est vrai que c'est Amélie qui en parle très bien et qui dit, dans l'épisode numéro 12... Je me souviens qu'elle dit entre nous, il n'y avait pas de jugement. Elle parlait de son, du coup, du groupe auquel j'appartenais. Et c'est vrai que c'est tellement important de pouvoir se retrouver entre étudiants et partager toutes ces questions, toutes les nouveautés qu'on découvre, sans jugement, sans peur d'utiliser un mot qu'il ne faut pas. Parce qu'après, quand une fois on est professionnel et sur le terrain... on peut ne pas rencontrer forcément des collègues aguerris ou pas, très bienveillants et qui sont un peu snipers sur les mots qu'on emploie et les questions qu'on a un petit peu, qui sont parfois un peu juvéniles, mais qui sont légitimes parce qu'on débarque.
C'est ça.
Et ça, c'est vraiment trop précieux quand on a la chance de le rencontrer. Ouais.
Je crois que précieux, c'est vraiment le mot, parce que entre, comme tu dis, le non-jugement, vraiment de la bienveillance... le partage de réflexions, d'expériences. Moi, je pense que j'ai presque autant appris, alors j'exagère peut-être, hein, mais j'ai presque autant appris d'elle que de la formation. Parce qu'on a toutes des expériences différentes, qu'on les a toutes partagées, qu'on le fait encore aujourd'hui beaucoup. Et énormément d'entraide sur les qualités, les forces des unes et des autres. Je sais que même pour les écrits, tu vois, pour quand il y en avait une qui était en difficulté dans telle ou telle matière, il y avait énormément d'entraide. Le mémoire, on l'a toute, enfin, on a fait, moi on a fait 5 mémoires en fait. je me revois encore dans l'appartement étudiant avec les prises. Les
multiprises au milieu du salon.
Exactement, la multiprise, toute la tête sur l'ordi, et puis quand il y en a une qui bloque sur un mot, il y a les 4 autres qui lèvent la tête pour dire c'est le mot là, ok merci, et on retourne à travailler. Et ça, c'était vraiment vraiment très très précieux.
On a vécu un peu la même chose du coup. Non, mais c'est vrai,
mais
que
je,
c'est un message à transmettre aux étudiants, je trouve. C'est important, et je trouve que les étudiants qui ont vécu leur formation avec le Covid n'ont pas eu les mêmes formations que nous, malheureusement. Et voilà, j'espère qu'ils pourront trouver, ou qu'ils ont quand même su trouver du soutien sous une certaine forme, mais c'est des formations qui sont exigeantes quand même. Donc si on n'est pas dans l'entraide et la bienveillance dès le départ, comment l'être après avec...
C'est ça, puis ça t'apprend aussi le travail d'équipe. Et puis ce que je disais au départ, c'est que c'est aussi l'endroit où tu trouves des gens qui normalement te ressemblent.
Oui.
Ou ont tout du moins les mêmes valeurs que toi. Est-ce que tu ne rencontres pas nécessairement dans ton quotidien ou n'importe où? Là, c'est vraiment des études qui sont quand même particulières, où ça demande un certain engagement. Et de retrouver des gens qui ont la même vision des choses que toi, je trouve que c'est précieux pour avancer autant dans ta vie professionnelle que dans ta vie tout court.
Ouais, c'est clair. Du coup, tu sors de ta formation diplômée, presque bilingue espagnol.
Je le suis quand même à la fin. Au bout de 7 mois, je le suis.
Bilingue espagnol, du coup. Vers quoi tu te diriges et pourquoi, comment ta première expérience?
Alors, à l'époque, c'était un petit peu compliqué d'avoir du travail. C'était pas un métier autant en tension qu'aujourd'hui. Et du coup, je me dirige là où il y a du travail. Et c'est-à-dire, mon premier poste était à l'éducation nationale.
Okay.
J'étais assistante sociale scolaire pendant une année scolaire.
Ok.
C'était très formateur aussi, parce que c'était la première fois que j'étais livrée à moi-même. Et je considère un petit peu que c'est une deuxième, troisième année pour moi. Okay. J'ai continué à apprendre vraiment beaucoup de choses à ce moment-là. Et ça m'a aussi permis de... Alors, j'ai beaucoup aimé le travail avec les enfants, etc. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'avais besoin d'une équipe de travailleurs sociaux autour de moi.
Ouais.
Et donc, au bout de cette année scolaire, j'ai choisi de ne pas renouveler et d'aller chercher ailleurs pour m'entourer. Je sentais que j'avais encore besoin d'être entourée de pairs.
D'accord. Effectivement, c'est des postes où... c'est plutôt c'est pas rare, mais plutôt pas très régulier de croiser ses collègues. Et l'équipe, c'est l'équipe enseignant, peut-être l'infirmier ou l'infirmière scolaire, le chef d'établissement. Donc, c'est pas des travailleurs sociaux. Et si toi, tu recherchais ça, ouais, c'est vrai que...
Ah, c'était très intéressant et j'ai été très bien entourée, hein, les collègues, mais par téléphone, etc. Et puis, y a des établissements sur lesquels ça se passait très, très bien. Et ça a été très intéressant. J'ai beaucoup aimé le travail avec les enfants, avec les familles. Mais c'est surtout que je pense qu'il faut être capable d'avoir une certaine autonomie et puis d'avoir aussi une certaine assise professionnelle, parce qu'il faut aussi s'imposer, faire sa place dans les établissements, notamment auprès des chefs d'établissement qui n'ont pas forcément la même vision des choses. Que toi, et en moi, en tout cas, en tant que jeune professionnelle, il y a des moments où j'ai été un petit peu en difficulté.
D'accord.
Okay. Mais voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de m'apprendre à me positionner, justement.
Oui, bien sûr. Et oui, et à défendre un peu des idées et des valeurs et des convictions, évidemment. Ok, au terme de cette première année, du coup, tu te diriges vers quoi? Est-ce qu'il y a des situations qui ont éveillé de l'intérêt chez toi pendant cette année-là, où tu t'es dit peut-être que j'irai plus vers tel milieu ou tel milieu?
On fait beaucoup de protection de l'enfance. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de protection de l'enfance quand même à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Malheureusement, la réalité a fait que je n'ai pas trouvé de poste en protection de l'enfance à ce moment-là.
Mais c'est fou, alors que maintenant,
c'est ça.
C'est un secteur qui embauche, qui ont un besoin important, oui. Okay.
C'est ça. Et assez rapidement, je trouve des petits remplacements dans une association, dans une grosse association qui s'occupe notamment du 115.
D'accord.
Il y a une partie 115 droit commun et une partie 115 demande d'asile.
Ok.
Et moi, je fais des remplacements un petit peu partout, en fait. Je fais ça pendant plusieurs mois, je dirais bien pendant une dizaine de mois. Je fais des remplacements sur le droit commun, puis des remplacements dans la demande d'asile. Et je me fixe jamais nulle part parce que c'est vraiment des tout petits remplacements. Je remplace des vacances, je remplace des arrêts maladie. Je suis un peu la remplaçante officielle. Mais ça me permet non seulement d'être entourée de travailleurs sociaux, mais aussi de toucher à tout, de connaître un petit peu mieux ce milieu-là de l'urgence, tant vers le droit commun que dans la demande d'asile, la demande d'asile est une branche qui m'a toujours attirée. Donc j'étais un petit peu contente de pouvoir aussi toucher du bout du doigt ce public-là.
D'accord. Donc ouais, t'as fait des allers-retours entre l'exclusion, la migration. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, suscite un intérêt plus particulier, la migration? Du coup, tu disais que ça t'avait toujours intéressé.
Oui, la demande d'asile, je suis hyper curieuse. J'ai vraiment envie d'en savoir plus, de maîtriser plus les procédures, de pouvoir accompagner les gens. Il y a un côté assez frustrant d'être uniquement la remplaçante, c'est que tu fais de l'accompagnement très ponctuel. Donc, tu n'es pas dans un accompagnement sur la durée et tu vas pas dans le fond avec les gens. Tu es vraiment sur quelque chose de très superficiel. Okay. Et là, ça me titille, en fait, de pouvoir vraiment accompagner des gens sur la durée, d'être référente de famille et d'essayer de voir évoluer des situations.
Du coup, est-ce que tu arrives à ton but, à ton objectif?
Alors, pas dans cette association-là.
D'accord.
mais quelques... Ouais, au bout de 10 mois, j'ai un CDD qui me passe un peu sous le nez. Je l'ai un peu mauvaise. Et j'en parle à des amis de promo. Et l'une d'entre elles me dit que dans son entreprise, dans un CADA, il y a un poste, un CDI qui vient de s'ouvrir, et donc je postule et je suis prise du coup en CDI dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Donc pile ce que tu convoitais.
C'est ça.
Trop bien. Quelles sont tes premières impressions du coup sur un CADA qui est l'étape d'après, 115, on peut dire?
C'est vraiment la révélation.
Ouais.
je suis absolument passionnée par le public, par les différences. Je suis hyper intéressée de comprendre les parcours. Je trouve que la procédure est hyper complexe et elle est très longue à cette époque-là parce qu'on est en 2013. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé sur la demande d'asile depuis. Les procédures étaient encore extrêmement longues à ce moment-là. Mais je trouvais ça génial de pouvoir accueillir les gens qui, en plus, étaient hébergés dans un foyer, du coup, au même endroit que nos bureaux. Donc, c'était un petit peu du quotidien. Donc, il y avait cette côté gestion du quotidien, de pouvoir vraiment travailler, d'avoir le temps avec les gens. De travailler les récits de vie, de comprendre un petit peu aussi tout ce qui était géopolitique, etc. Et d'avoir aussi la possibilité de travailler tout ce qu'il y a autour, parce que bien sûr, il y a la procédure de demande d'asile, il y a l'hébergement, mais ça reste aussi des personnes lambda qui peuvent avoir des problématiques diverses et variées, en plus de leur procédure
large.
De demande d'asile.
Ouais. Est-ce que tu peux citer un petit peu ce que tu traitais avec eux, peut-être pour des personnes qui découvrent ce public, qu'est-ce que tu étais amenée à traiter à part leur demande d'asile et la régularisation de ces personnes?
Alors, comme des personnes de droit commun, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la scolarisation des enfants, on peut faire de l'éducatif, il peut y avoir des problématiques de santé, du handicap, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir... de la protection de l'enfance, des violences conjugales. il y a énormément de, il peut y avoir en tout cas énormément de problématiques. Pour moi, j'appelais ça en tout cas de la polyvalence spécialisée.
C'est vrai, c'est
parce que on fait vraiment tout avec les personnes comme en polyvalence de secteur. Mais en plus, il y a la petite difficulté du droit des étrangers.
Et qui vient parfois accentuer la difficulté ou la problématique parce qu'il y a cette tension de régularisation ou pas, traumatisme pendant le voyage, comment gérer aujourd'hui l'interculturalité, l'insertion, les différences ressenties par les personnes, la culture. Oui.
Tu le dis très bien. C'est vrai que je l'ai pas cité, mais il y a aussi toute cette problématique d'exil à traiter avec les personnes, tout le trauma qu'elles ont pu vivre dans leur pays ou sur leur parcours pour arriver jusque là. Et ça aussi, c'est une grosse partie du travail.
C'est vrai que on l'a pas toujours. Enfin, j'ai pas souvenir en tout cas sur les épisodes précédents, on avait souligné ça, les problématiques d'exil, la santé mentale des réfugiés et en tout cas la particularité pour les demandeurs d'asile, c'est qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux sans être imminemment en danger. Donc il n'y a pas d'autre solution pour eux que d'être là où ils sont ou dans un autre pays, mais certainement pas dans l'heure en fait. Ce qui vient forcément rajouter une petite entre guillemets problématique.
C'est ça, et il y a également toute cette problématique, alors à l'époque c'était de l'attente, puisque la procédure était extrêmement longue et pouvait durer plus d'un an, donc pour ceux du coup qui ne maîtriseraient pas la demande d'asile, donc les personnes doivent expliquer les raisons du départ de leur pays à un organisme qui s'appelle l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et donc, c'est des officiers de protection qui les reçoivent et ils doivent apporter les preuves de leur récit de vie, de tout ce qui fait que, qu'ils ont quitté leur pays et qu'ils seraient en danger s'ils y retournaient. Et à l'époque, le délai pour être convoqué à l'OFPRA pouvait être d'un an et demi.
C'est énorme.
Ce qui était énorme, ce qui était extrêmement long, puisque les gens étaient vraiment dans une attente et dans quelque chose d'incertain, en fait, dans une incertitude. Une incertitude sur un an et demi, c'est très long. Mais également ce qui d'un autre côté pouvait aussi leur permettre d'avoir le temps d'arriver, de se poser et de travailler le récit de retravailler le récit avec les personnes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui en 3 mois peuvent être convoquées. Elles sont à peine arrivées en France, elles ont à peine eu le temps de se sentir un peu sécurisées. On leur demande déjà de raconter ce qui s'est passé. Alors que quand il y a du trauma, il y a des choses qui sont enfouies, qui ne sont pas encore ressorties, où c'est compliqué à aborder, où ça risque de réveiller des blessures. Et ça, il faut y aller un peu doucement. Donc il y a des choses là, aujourd'hui, qui, je pense, ne sont pas du tout abordées à l'OFPRA parce que les personnes ne sont pas du tout en capacité de les aborder. Alors que cette temporalité d'il y a une dizaine d'années permettait quand même de pouvoir, quand les gens étaient accompagnés, de pouvoir travailler dessus, d'avoir un accompagnement psychologique aussi quand c'était nécessaire, et ça l'était souvent, pour pouvoir aborder ces choses-là sans complètement détruire les personnes, mais en même temps d'avoir suffisamment d'arguments pour être cru par l'OFPRA et d'obtenir un statut.
C'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'était long pour eux, mais ça laissait quand même une latitude de pouvoir s'ouvrir un peu les histoires, les récits de vie et ajouter, parce que chaque détail a son importance, chaque élément de l'histoire. Et quand des personnes sont complètement bloquées sur ce qui s'est passé, malheureusement, on sait que la demande d'asile a peu de chances d'aboutir. Certains organismes, j'ai souvenir d'un organisme à Lyon qui existe encore, il me semble, et qui est composé de psychologues les psychiatres qui n'ont pas forcément besoin que la personne parle, mais du coup étudient le corps de la personne, voilà, les blessures, et arrivent à retracer un petit peu ce que la personne a pu vivre. C'est un peu comme un médecin légiste, mais spécialisé dans la demande d'asile. Et ça aide, mais c'est un délai énorme pour avoir un rendez-vous. Donc forcément, si on n'a pas le temps entre le dépôt, la réponse, etc., de faire appel à cet organisme, c'est les personnes qui sont le plus loin de pouvoir déposer des choses impactées, en fait. C'est tellement dommage. Comment tu te sens, toi, dans ce poste-là? Donc tu m'as dit que c'était une révélation. Est-ce que tu as des situations un peu en tête comme ça qui ont retenu un peu ton attention, qui t'ont marqué?
J'ai des situations et une en particulier là qui me vient parce que ça faisait écho à ce qu'on disait. J'allais dire aussi qu'il y a un côté très politique puisque donc la demande d'asile, c'est aussi différentes procédures au sein de la demande d'asile et dans les CADA, il peut aussi y avoir des personnes qui sont en procédure. Aujourd'hui, on appelle ça des procédures accélérées. Mmh. Donc c'est quand les personnes viennent d'un pays que la France va considérer comme sûr. Enfin, la France va considérer que ce pays, enfin que l'État en tout cas de ce pays sera en capacité de protéger ses citoyens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des pays d'origine sûre n'est pas la même dans tous les pays européens. C'est quand même quelque chose que je trouve à savoir.
La dichotomie un peu. C'est...
Okay. Et moi, je crois que quand j'arrive au CADA, assez rapidement, j'accueille une famille albanaise qui a un vécu. Assez particulier parce que en Albanie il y a ce qu'on appelle des vendettas. Enfin, il y a le canoun, c'est des règles qui existent en Albanie, surtout en Albanie du Nord, si je dis pas de bêtises. Quand une vie est, je caricature, hein, j'explique très rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus, mais quand une vie est prise, la famille de la victime peut en prendre 10 de l'autre famille.
C'est un peu la loi au-dessus de la loi, quoi.
C'est ça. Et donc quand j'arrive, une des premières familles que j'accompagne, c'est une famille qui justement est sous le coup d'une vendetta. Donc je crois que c'est le frère de monsieur qui a dû ça fait très longtemps, donc je sais plus du tout si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas il y a eu un accident, il y a une personne qui est morte dans une famille, et du coup il cherchait à l'autre famille cherchait à assassiner tous les membres masculins de sa famille. Donc ils sont restés pendant, enfin ils se sont cachés en tout cas en Albanie pendant pas loin de 10 ans. Et finalement ils ont réussi à fuir, voyant que en fait en essayant de réconcilier les familles, il y avait des associations qui faisaient ça à cette époque-là, mais voyant que ça ne fonctionnait pas, ils ont fini par fuir en France. Et cette famille-là. Je me souviens que c'était en 2013 parce que c'est en 2013 que l'Albanie est passée dans la liste des pays d'origine sûre. Mmh. Et c'était un petit peu dans les mêmes temps, et je me souviens avoir travaillé avec ce monsieur parce que c'était très très compliqué de pouvoir prouver 10 ans d'errance.
Oui, bien sûr.
Et du coup, on a vraiment travaillé sur son récit pour donner le maximum de détails et pour justement montrer que ce qu'il avait vécu était réel et que rien n'était, que c'était pas possible pour l'État en tout cas de protéger ses ressortissants quand il s'agissait du canon. Et cette famille-là a obtenu le statut de réfugié. Donc ça, c'était... Je dis ça, ils l'ont pas obtenu en 2013 non plus, ils l'ont obtenu un petit peu après, hein, ça a été beaucoup plus long, mais... Mais ça, c'était une de mes premières satisfactions d'assistante sociale en CADA, en fait, d'avoir réussi à travailler avec la famille et qu'ils aient eu une reconnaissance de leur statut de victime et qu'ils obtiennent la protection de la France.
Avec tout, enfin, avec la dernière décennie qu'ils avaient vécue, c'est sûr que l'issue, du coup, est satisfaisante pour eux, évidemment. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance d'un CADA?
Alors, je pense que tous les CADA sont un petit peu différents, mais celui où j'étais avait la particularité, du coup, d'être un foyer. En fait, il y avait des unités de vie, les personnes partageaient des petits appartements, mais tout était dans un bloc, dans un immeuble. Et au rez-de-chaussée, il y avait nos bureaux. Donc l'ambiance était, ça peut être tout et son contraire. C'est assez joyeux généralement, puisqu'il y a les enfants qui jouent les uns avec les autres, les cultures qui se mélangent, des repas qui se partagent, et où ça peut être assez sympathique. Mais il y a quand même tout un côté aussi où il peut y avoir des difficultés de cohabitation. Et où il y a des gestions de conflits assez importantes aussi à faire, que ça soit dans des choses vraiment du quotidien, sur le ménage des communs, sur des choses comme ça. Quand il y a deux familles qui cohabitent dans le même appartement, ben, parfois on n'a pas le même rythme, mais parfois ça peut être aussi très compliqué. Mm-hmm. Pas la même culture, pas la même manière de vivre. Voilà, il y a des familles entre lesquelles ça matche très bien et d'autres entre lesquelles ça matche pas du tout. Nous, notre rôle, c'est aussi justement d'apaiser tout ça, de faire respecter les règles, parce que pour que ça se passe bien, il y a des règles. Mm-hmm. Et puis d'apaiser les tensions, de trouver des solutions quand il y a des soucis. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez joyeux, puisque tu vois les enfants rentrer de l'école, ils viennent. Prendre le goûter dans ton bureau parce que il y a un exercice qu'ils n'ont pas compris et ils ont besoin de ton aide. Enfin, y a aussi une polyvalence comme ça où effectivement ça fait pas vraiment partie de tes missions de faire des exercices de maths, mais mais c'est avec plaisir que tu files un coup de main au petit qui vient te voir et te solliciter pour ça.
Tu te fais régulièrement nourrir et remercier par des parents par des assiettes.
Exactement, tu prends du poids.
Oui,
tu prends du poids et quand tu es très content d'avoir maigri, ils sont tous déçus et ils te ramènent encore plus de nourriture pour que tu reprennes du poil de la bête.
Ça, faut manger. La nourriture, c'est un aspect important. Et puis, tu as dit tout à l'heure, ils n'ont pas la même culture, la même façon de vivre. Et puis, il y a une vigilance énorme sur la religion, puisque beaucoup de conflits, du coup, émanent de ça. Donc, tu peux difficilement faire cohabiter des personnes qui ont des religions qui s'affrontent. C'est ça. Des vraies questions qui arrivent en CADA et qui sont parfois peu imaginées par certaines personnes. Comment tu vis, elle est plutôt bête ma question, mais c'est pour que tu en parles, comment tu vis les OQTF, les obligations de quitter le territoire français?
Mal. Non, ta question n'est pas bête. Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué quand les familles reçoivent déjà des réponses négatives. Alors, encore une fois, à l'époque, les OQTF n'étaient pas automatiques. Aujourd'hui, quand une famille reçoit un rejet de la part de l'OFPRA, quasiment systématiquement derrière, ils vont recevoir une obligation de quitter le territoire. C'était pas le cas auparavant. Donc, on avait quand même la possibilité de faire d'autres demandes auprès de la préfecture, d'avoir le temps de faire un recours aussi. Et encore une fois, comme les délais étaient très longs, les gens finissaient leur demande d'asile. Donc, j'entends l'OFPRA plus le recours à la Cour nationale du droit d'asile, ça pouvait mettre 4 ans. Donc, au bout de 4 ans en France, les personnes, elles sont insérées, même s'il n'y a pas de... Même si, effectivement, il n'y a pas de reconnaissance du statut de réfugié ou une autre protection qui est octroyée par la France, on a la possibilité de faire d'autres demandes auprès de la préfecture du département Et ça, il y a quand même une autre perspective pour les personnes. Donc, l'obligation de quitter le territoire n'arrive pas systématiquement. Quand ça arrive, on sait aussi, c'est dur, parce que c'est très dur pour les personnes. Et ce qui est très compliqué également, c'est que quand la demande d'asile est terminée et qu'il y a une obligation de quitter le territoire, les familles, elles n'ont plus le droit d'être en CADA. Donc, il faut qu'elles sortent du dispositif. Donc ça, ça l'aurait expliqué dès le départ. Et ça l'aurait resignifié quand elles le, quand elles reçoivent le
recommandé.
La notification, le recommandé. Mais c'était pas pour autant, en tout cas à l'époque, qu'elles sortaient réellement. Il y a eu toute une période où on avait la possibilité justement de travailler avec le 115 pour que les familles soient transférées et qu'elles aient quand même un endroit où dormir, parce qu'elles étaient volontaires pour partir, mais partir pour la rue, c'était pas envisageable, parce que c'est pas parce qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance de la part de la France que les familles se sentent tout de même en capacité de rentrer dans leur pays d'origine. Si elles estimaient qu'elles étaient en danger dans leur pays d'origine, c'est pas parce que la France leur a dit non, c'est bon, tu peux y retourner, qu'elles se sentent plus en sécurité et plus à même d'y retourner, quoi.
Oui, le message, c'est pas forcément non, c'est bon, tu peux y retourner. C'est nous, on considère que c'est pas en France que tu auras une place, quoi. Ok. Est-ce que c'est quoi ton expérience après? Est-ce que tu y es toujours? Est-ce que...
Alors non, je n'y suis plus parce que j'ai démissionné 4 ans et demi après.
Okay.
Parce que ça s'est pas très bien passé. Parce que ça s'est... En fait, le cadre, c'était vraiment une expérience super avec une super équipe au départ. Et sauf que malheureusement, comme l'endroit où je travaillais, c'était quand même une entreprise. Il y a certaines valeurs qui n'étaient plus du tout en adéquation avec les miennes. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un burn-out.
Ok.
Expérience intéressante, mais que je ne conseille pas.
Qu'est-ce qui a amené à ton épuisement professionnel, du coup ?
Les OQTF en font partie. Ouais. Non, en fait, il y avait une certaine pression qui était mise sur les personnes hébergées pour justement sortir du dispositif et une certaine pression qui était mise sur les travailleurs sociaux également. Une maltraitance de la part de la hiérarchie. Mmh. Qui s'est transformé en harcèlement et du coup des incompréhensions et une négation de la... En fait, les travailleurs sociaux sont tombés les uns après les autres et du coup, de sous-effectif en sous-effectif, à un moment donné, c'est plus possible.
Ok.
Et donc, ça a amené justement à... Mais dans l'entreprise, à ce moment-là, comme c'est une entreprise qui est nationale, il y en avait un petit peu partout. C'était un petit peu les directives que prenait l'entreprise qui était complètement contre les valeurs du travail social et qui amenait un peu tous les travailleurs sociaux en France à tomber en dépression ou en burn-out. Il y en avait un petit peu partout. Et c'était pas entendu par les dirigeants du groupe. Donc à un moment après ce burn-out, je suis quand même retournée au travail, mais très rapidement j'ai fait le choix de me sauver et de protéger ma santé.
Oui, il faut être on le dit souvent, hein, faut être en forme pour prendre soin des autres, mais faut prendre soin de soi pour pouvoir le faire.
Complètement. Tu ne peux pas être compétent. C'est très dur de lâcher, parce que je pense que... je suis sûre qu'on vit tous ça à un moment donné où nous, on veut encore faire ça, c'est encore important, on ne veut pas lâcher parce qu'on a l'impression que que de laisser tomber les gens et d'être une mauvaise personne, sauf que quand ça commence à atteindre notre santé, en fait, on n'est plus des bons travailleurs sociaux, on ne peut plus correctement aider les gens. Donc la première chose, c'est effectivement de prendre soin de soi. D'abord, prendre soin de sa santé physique et mentale, surtout. D'être en accord avec ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir exercer correctement et pour pouvoir réellement accompagner les gens et les aider au mieux. Sans ça, je pense que c'est qu'on risque effectivement de pas faire du bon travail.
Effectivement, c'est le risque, ouais. Ok, est-ce que à ce moment-là, tu te poses la question travail social ou pas? Est-ce que tu en as fini avec ce champ? Est-ce que tu passerais bien à autre chose?
Pas du tout, et c'est justement ça qui est encore plus douloureux. Ouais. C'est que j'adore ce que je fais, j'adore le public, j'adore mon travail, et c'est ça qui est vraiment très très compliqué aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis arrivée là, parce que j'avais vraiment pas envie de lâcher. Et donc après ça, quand je démissionne, je tire pas du tout un trait sur le public étranger, sur la demande d'asile et surtout pas sur le travail social, parce que je suis pas du tout en confiance, mais c'est ce que j'aime.
Ok, t'es convaincue et
ouais.
Ok. Quel est ton choix du coup à ce moment-là? Tu prends un peu de temps pour toi, tu te remets.
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, pour le burn-out, j'étais arrêtée pendant 6 mois quand même.
Ok.
C'est le traitement, hein, burn-out. C'est un arrêt de travail pendant 6 mois. Donc, et puis, j'ai pas la possibilité parce que j'ai personne pour assurer mes arrières. Ouais. Donc, en fait, il faut que je paye mon loyer et que je mange. Donc, très rapidement. Enfin, je me laisse, je crois, parce que je finis, je crois que ma démission, ma fin de poste, ça va être le 22 décembre, tu vois, donc je crois qu'au 2 janvier, enfin, tu vois, je me laisse Noël, mais que très rapidement, je postule sur diverses offres, et 2 jours après, je trouve quelque chose, la semaine suivante, je commence un nouveau poste, du coup, à l'hôpital,
okay.
Et en service gériatrie.
Ok.
Complètement à l'opposé
d'un complètement autre champ, quoi.
C'est ça. Mais mon objectif à ce moment-là, c'est de travailler au moins 4 mois pour pouvoir avoir du chômage et me laisser le temps justement de chercher quelque chose qui me plaît.
Ouais.
Okay. Et ça a été aussi une expérience très très riche parce que c'est pas du tout un milieu que je connaissais, l'hôpital. Qui est un petit peu comme un peu comme l'éducation nationale, le fait de pas être entouré de ses pairs, c'est pas quelque chose qui me convient réellement. Mais là-dedans, je trouve quand même, parce que la relation avec le corps médical est quand même assez particulière. Il y a quand même une relation, il n'y a pas de relation hiérarchique normalement, mais eux pensent que si. Donc ça peut être compliqué, il peut y avoir quand même des conflits. Mais le public est hyper intéressant, hyper attachant, j'apprends plein de choses. Et j'ai une hiérarchie pour le coup qui est ultra bienveillante, qui me redonne confiance en moi, qui est vraiment très soutenante, et j'ai surtout un binôme. On est le seul service où on est deux, et où on travaille extrêmement bien ensemble.
Okay.
Donc c'est vraiment c'est une belle expérience.
T'en ressors satisfaite.
Ouais.
T'as pas le coup de foudre pour la gériatrie.
Non, mais mais ça permet de se reconstruire, non. Et c'est quand même hyper intéressant. Et puis faut dire c'est que les personnes âgées ont quand même quelque chose de très attachant.
C'est vrai.
C'est quand même aussi des histoires de vie hyper intéressantes. Après, je ressens un petit peu de frustration justement parce qu'il n'y a pas d'accompagnement sur le long terme et que parfois tu vois un peu des choses où tu crois voir des petits points sur lesquels il faudrait appuyer pour faire avancer des situations et que malheureusement, tu n'as pas du tout le temps de le faire puisque les séjours sont assez courts et puis que voilà, tu n'appuies pas sur des endroits qui pourraient faire mal si t'es pas en capacité derrière de récupérer les choses.
Bien sûr, ouais.
Donc un peu de frustration à ce niveau-là, et puis surtout je me rends compte le jour où l'équipe soignante arrive paniquée parce qu'il y a un monsieur kosovar, que moi je suis excitée comme une puce. c'est mon public, et que je me rends bien compte que bon, j'ai pas fini avec le public étranger et qu'il faut que je retourne. Il faut que j'y retourne. Et du coup, on arrive au terme de mes 4 mois de contrat, alors qu'il aurait pu se prolonger, mais du coup, je fais le choix de pas le prolonger pour retourner, pour chercher vraiment un travail avec mon public de prédilection.
Est-ce que t'arrives du coup à retourner
Ouais, je le trouve assez rapidement grâce à une amie qui travaille dans une association où il y a un gros pôle asile avec plein de dispositifs différents.
D'accord.
Et il y a un nouveau poste qui s'ouvre sur un CADA, mais spécifiquement pour l'insertion des personnes réfugiées. Et donc, j'arrive comme ça sur un CDD de 6 mois. Et je retrouve du coup mon public, mais avec quand même beaucoup de choses. Enfin, une fois que les personnes sont réfugiées, elles rentrent dans du droit commun.
Ouais, donc, c'est ce que j'allais te demander de préciser, c'est que là, les personnes ont le statut donc oui. De réfugié ou la protection subsidiaire. Elles sont BPI, bénéficiaires de la protection internationale.
C'est ça.
Et donc tu les accompagnes comme une personne qui, enfin, ça ouvre tous les droits au niveau du droit commun.
C'est ça. L'objectif de mon poste, c'est de les sortir le plus rapidement du CADA.
D'accord. Alors, du coup, de
vers de soit de, enfin, en fonction de leur situation, soit sur de l'hébergement autonome, soit enfin majoritairement quand même sur de l'hébergement autonome ou sur d'autres dispositifs. Après, les dispositifs qu'on connaît aujourd'hui d'insertion des réfugiés n'existe pas encore à ce moment-là. Mon poste, c'est un des prémices de ces dispositifs-là. Donc généralement, c'est plutôt du logement autonome, mais avec plus ou moins d'aide derrière, type accompagnement social lié au logement ou plutôt renforcé en fonction des situations. Après, il peut y avoir en cas d'âge des... Là, je parle de famille, mais il peut aussi y avoir des hommes seuls qui, eux, par contre, peuvent partir sur d'autres dispositifs d'insertion.
Puisque tu précises hommes seuls, parce qu'effectivement, il y a peu de femmes qui migrent seules.
Oui.
Ou on n'a pas accès.
Oui. En fait, il y a peu de femmes, surtout. Il y a peu de femmes. Enfin, là, moi, la majorité des publics, en tout cas, que j'ai rencontrés, il y a quelques dames... toute seule, mais j'aurais plutôt dû dire personne isolée plutôt que homme seul.
Non, mais c'était juste... Ben, c'est une réalité, il y a plus d'hommes qui migrent.
Oui, mais tu fais quand même bien de le préciser, parce qu'il y a quand même quelques femmes qui sont seules. Après, c'est vrai qu'en majorité, quand les femmes sont... C'est femmes seules avec enfants. Mais il y en a eu quand même tout de même. Quand je re-réfléchis, je pense qu'effectivement, j'ai eu quelques dames toutes seules.
Ok. Est-ce que tu te plais dans ce nouveau poste? Est-ce que du coup tu récupères les personnes ayant le statut, donc peut-être que tu vis moins la violence des OQTF, des...
Oui, ça me fait du bien d'avoir des gens qui ont l'autorisation de rester en France.
Ouais.
Le travail est quand même intéressant. En plus, comme c'est une mission de 6 mois. Qui n'a pas forcément vocation à être pérennisée par la suite, on ne sait pas trop. Je fais un petit peu pas ce que je veux, mais je crée mes propres outils. Je suis aussi censée pouvoir montrer que c'est pas possible en fait techniquement de sortir les familles dans un délai de 3 mois comme le veut
c'est cool.
La procédure. Que techniquement, c'est pas possible. Entre les ouvertures de droit CAF et les demandes de logement, c'est techniquement impossible. Et du coup, je trouve que c'est quand même intéressant aussi de pouvoir montrer que les demandes sont pas réalisables sur le terrain.
Mmh, bien sûr. Et est-ce que tu arrives à le faire entendre, ça, du coup, aux financeurs?
Alors, ça a été... Enfin, oui, c'est entendu, mais c'est pas pour autant que les choses ont changé.
Okay.
Donc, après, la réalité, c'est que sur le CADA, il y a peu de... c'est quand même un petit CADA, et il y a peu de personnes qui ont le statut de réfugié. Donc, j'accompagne peu de personnes, et ma direction fait le choix, comme il y a énormément d'autres dispositifs sur le pôle, de me faire travailler en transversal. Donc, j'accompagne et des personnes réfugiées du CADA, mais également des personnes réfugiées qui sont... sur de l'hôtel, donc sur un dispositif d'urgence, et qui ont quand même obtenu le statut. Donc il y a différentes, le public est le même, mais différents hébergements, les gens partent pas du même de la même base. Donc c'est aussi intéressant de travailler en transversal, même si le poste n'était pas financé pour ça. Et effectivement, après, dans les financements, le poste a pas été pérennisé du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes réfugiées sur le CADA.
D'accord. Ok. C'est intéressant de voir comment on réajuste aussi les choses, l'intention de créer un dispositif. Bon, il y a peut-être pas assez de personnes, donc on réajuste. C'est intéressant, en tout cas, je trouve, de partir.
Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le même temps, il y a les dispositifs réfugiés qui sont créés, alors qui accueillent du coup des personnes réfugiées qui peuvent venir d'autres CADA en France, et qui eux, pour le coup, ont grossi ces dernières années et ont pris de plus en plus d'ampleur avec différents moyens d'orientation.
Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu restes pas, du coup, c'est un contrat?
Non. Du coup, ça s'arrête au bout de 6 mois, mais ma direction me propose un CDI sur le dispositif hôtel.
Okay.
Donc sur le dispositif d'urgence, où c'est quand même une grosse équipe qui est chargée de l'accompagnement social des familles qui sont hébergés par le 115 dans des hôtels de la ville.
Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu d'où les personnes elles viennent, elles arrivent, tes missions?
Alors, à ce moment-là, les personnes peuvent être dans plein de... L'hôtel, en fait, c'est un peu le dernier hébergement, ou le premier. Donc, ça peut soit être des personnes primo-arrivantes qui arrivent en France, mais il n'y a pas d'hébergement encore dédié qui peut leur être proposé. Donc, ils arrivent à l'hôtel et vont démarrer leur demande d'asile sur l'hôtel. Ça peut être des personnes qui sont déboutées du droit d'asile depuis un mois comme depuis plusieurs années. D'accord. Moi, quand j'arrive sur l'hôtel, il y a des personnes qui sont là depuis 2 heures et des personnes qui sont là depuis 10 ans.
10 ans, c'est pas... Tu forces pas le trait, c'est vraiment 10 ans.
Ouais. Mm. Oui, non, je force pas du tout le trait. Là actuellement, je suis encore sur ce dispositif-là et j'accompagne des familles qui sont hébergées à l'hôtel depuis... La famille qui est là depuis le plus longtemps, ça fait 14 ans qu'elle est là.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle est là depuis 14 ans? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans leur...
Alors, ils ont eu un cas parcours, cette famille-là, en l'occurrence, a eu un parcours classique de demande d'asile, sauf qu'à l'époque, ça prenait énormément de temps, donc je pense qu'ils ont eu leur réponse entre 3 et 4 ans. Mmh. Ils ont dû faire des demandes qui ont été rejetées, ils se sont maintenus sur le territoire, les enfants étaient scolarisés, etc. Et puis, il faut savoir qu'ils ont fait des demandes donc, auprès de la préfecture du département, mais qu'il y a aussi des gros délais de réponse sur quand on fait des demandes de régularisation, quelle que soit la demande. Alors c'est un peu plus rapide quand il s'agit d'une demande médicale, mais pour toutes les autres demandes, demandes exceptionnelles ou avec des... Voilà, les personnes peuvent avoir parfois des problèmes d'embauche puisqu'elles sont quand même intégrées dans la société. Malheureusement, elles n'ont pas l'autorisation de travailler. Mais ça ne les empêche pas de travailler leur insertion. Donc voilà, les délais extrêmes en termes de réponses, des réponses négatives ou des dossiers perdus. Et en l'occurrence, cette famille-là, comme ça arrivait beaucoup à une époque, est une famille d'origine arménienne qui n'a pas déclaré son vrai nom en arrivant en France.
D'accord. Et donc,
il faut... Pour pouvoir refaire des demandes, il faut avoir un passeport et un acte de naissance au vrai nom. Et donc, il faut changer tous les papiers et faire des certificats de concordance pour dire que, ben oui, Madame Untel, c'est bien la même personne que Madame Untel qui est là depuis 7 ans. Mmh. Et donc, ça, c'est aussi des procédures administratives qui prennent énormément de temps. Et puis.
Et en attendant, du coup, les personnes sont à l'hôtel.
C'est ça.
Et est-ce que tu constates qu'ils vivent dans des conditions précaires et comment les personnes elles vivent ça ?
Alors, je crois que mon seuil de tolérance avec les années a vachement évolué parce que je suis sûre, j'ai des amis qui sont déjà venus. Faire par exemple le Père Noël bénévolement pour les enfants des hôtels et qui eux sont choqués dans des conditions de vie dans lesquelles les personnes vivent, alors que pour moi c'est des hôtels qui sont plutôt corrects.
D'accord.
Parce qu'il y a certains hôtels où c'était qui là aujourd'hui sont fermés, mais où les conditions de vie étaient c'était de l'insalubrité. Mmh. Où les gens sont les uns sur les autres. Ils partagent des chambres de 9 mètres carrés, donc c'est deux personnes dans une chambre. Donc quand c'est une famille de 4 personnes, ils ont deux chambres, mais c'est quand même extrêmement compliqué quand il y a des enfants. Quand il y a une cuisine dans l'hôtel, ce qui est super, c'est une cuisine qui est partagée. Et très souvent, on a des problématiques de l'ordre du collectif, donc avec la visite de petites bêtes, donc des cafards, des punaises de lit, la gale aussi de temps en temps.
Voilà.
Toutes ces belles réjouissances et ça participe aussi.
Que tu gères, en plus, j'imagine, du coup, sur...
Alors, l'avantage de mon dispositif, c'est que pas vraiment.
Ah, chanceuse.
Oui, parce que le 115, c'est le 115 qui est chargé de l'hébergement, et c'est le 115 n'est pas dans l'association pour laquelle je travaille. C'est une association différente. Nous, on est uniquement chargé de l'accompagnement social.
D'accord.
Donc, bien entendu, quand il y a quand même ces problématiques-là, on va quand même s'assurer que les choses sont faites, on va le signaler... Et puis, on va quand même négocier avec l'hôtelier pour qu'il y ait des traitements qui soient faits extrêmement rapidement
ouais.
pour les familles. Mais on n'a pas toute une gestion à faire. Et l'avantage de l'hôtel, effectivement, c'est qu'il est géré par un hôtelier.
Oui, donc effectivement, il y a tout un aspect logistique dont
Après, on est aussi, comme c'est un dispositif d'urgence, les financements pour les travailleurs sociaux qui accompagnent, c'est de l'ordre de 1 travailleur social pour 100 personnes accompagnées. Donc, c'est des taux d'encadrement qui sont énormes. Pour que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre, dans un CADA, le taux d'encadrement, il est à 1 travailleur social pour 25 personnes. Donc là, on est 4 fois plus.
Énorme.
Voilà. Et quand moi, je suis arrivée sur l'hôtel, on était 6 travailleurs sociaux et on était à 130 personnes par travailleur social.
Waouh.
Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de plus ou moins 10%. Enfin, on peut...
Mais c'est énorme.
Donc l'accompagnement social n'est pas du tout le même que dans un CADA, ou qu'on ne peut pas accompagner physiquement les gens chez le médecin si c'est nécessaire. On est vraiment là sur des choses basiques de l'ordre de la procédure, de l'orientation.
Oui, l'idée, c'est d'être la première porte d'entrée si c'est la première fois qu'ils arrivent sur le territoire. Et après, orienter, faire les demandes nécessaires pour qu'ils soient orientés en, en CADA et qu'ils aient le minimum de documents qu'il faut. Ok, mais sur par exemple la famille qui est là depuis très longtemps, là tu rentres dans un accompagnement social qui est un peu plus étayé, on va dire de fait, puisqu'ils sont là depuis très longtemps.
Oui, et puis effectivement, la réalité c'est qu'aussi les gens, là aujourd'hui on a quand même beaucoup moins de personnes. Enfin, il y a eu entre-temps quand même une spécialisation des lieux d'hébergement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de places de CADA ou d'HUDA qui ont ouvert. Il y a des centres d'accueil et d'orientation aussi qui ont ouvert et qui ont permis à ce que les personnes primo-arrivantes puissent être accueillies directement dans ces centres-là en vue de pouvoir être réorientées vers des CADA ou des HUDA pour vraiment être dans des hébergements et dans un accompagnement dédié. Donc, entre-temps, il y a aussi eu le Covid. Donc là, nous, aujourd'hui, on a beaucoup moins de personnes accompagnées. Là, je suis à 75 personnes accompagnées.
Oui, quand même. C'est...
Moi, j'ai l'impression d'avoir vachement le temps.
Oui, j'imagine qu'on développe des techniques de travail, d'accompagnement qui sont hyper efficientes.
Mais la réalité, c'est aussi que les gens n'ont pas les mêmes besoins en même temps. Oui. Il y a une sorte de roulement. On va dire que certaines situations méritent à un moment donné qu'on s'y attarde parce qu'il y a des urgences ou une grosse problématique ou une procédure qui est justement à mettre en œuvre. On va pouvoir prendre ce temps-là avec la famille. Bien entendu, ça veut aussi dire qu'il y a des familles qui, à ce moment-là, n'auront eux pas de besoin parce que leur demande sera en cours. Tout suit son cours et qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problématique particulière. Pour le coup, je passerai beaucoup moins de temps avec la famille qui n'a pas de besoin et beaucoup plus avec celle qui en a besoin.
Bien sûr.
Donc on jauge un peu les choses de cette manière-là.
Ce qu'on a omis de préciser, c'est que du coup, tu saupoudres tout ça, tout ton accompagnement sur différentes problématiques par très souvent la barrière de la langue. Quand même qui vient rajouter une petite difficulté. Alors j'imagine que ce soit au CADA ou là à l'hôtel, si tu as vraiment réellement besoin, tu peux demander un traducteur, tu peux faire appel à la communauté parfois pour des traductions, mais pour des petites demandes du quotidien, il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas de... Donc parfois faire comprendre que le rendez-vous il est à telle heure, à tel endroit, c'est déjà un challenge en fait. Pour les personnes et pour toi.
Au départ, je pense que ça l'est. Je m'en suis rendu compte. En fait, pour moi, c'est pas un problème, mais je crois que c'est aussi parce que ça fait très longtemps que je travaille avec ce public-là et que du coup, c'est plus du tout un frein, la barrière de la langue, parce qu'on développe d'autres techniques de communication. Il y a la communication orale, mais dans la réalité, les gens apprennent très rapidement. Si c'est pas le français, ils apprennent les mots-clés. On peut passer par l'écrit. On peut passer par des dessins, par... nous aussi, moi aussi, je connais quelques mots. Je sais dire les jours de la semaine en russe, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui passent aussi par le visage, par le regard, par les gestes. On parle beaucoup avec les mains. Mais tu as raison dans ce que tu dis, parce que j'ai eu une stagiaire l'an passé et c'est une des premières choses qu'elle m'a dit et qui, même moi, je trouvais qu'elle ne s'adressait pas de la bonne manière aux gens. Mais c'était complètement normal parce que y a un temps d'adaptation pour justement réussir à comprendre que peut-être de faire une phrase en entier, c'est nécessaire quand tu parles à des personnes francophones. Mais tu compliques plus les choses quand tu parles à des personnes dont ce n'est pas la langue maternelle. Et que parfois dire demain rendez-vous docteur, c'est beaucoup plus concret pour la famille que de faire une phrase en expliquant que le spécialiste a les a contactés et que le rendez-vous aura lieu à tel moment.
Bien sûr, oui, on parle un peu en découpé.
C'est ça.
Ok, tu es toujours sur ce dispositif.
Oui.
Et est-ce que tu es satisfaite du lieu où tu travailles, de l'ambiance, des personnes que tu rencontres, des situations aussi que tu rencontres?
Oui, absolument de tout. Je travaille avec une... Alors, l'équipe a énormément changé depuis que j'y suis, mais j'ai vraiment une super équipe. Comme c'est un dispositif d'urgence, il y a quelque chose qui se crée assez, assez rapidement, de l'ordre du soutien et d'un vrai travail d'équipe, et ce que moi, j'affectionne particulièrement. À plus grande échelle, le pôle asile du coup de l'association est aussi très très bienveillant. Il y a beaucoup d'entraide entre les différents dispositifs, des échanges, des collègues qui se ressemblent, et je retrouve un petit peu ce qu'il y avait à l'IRTS où on a la même volonté d'accompagner les personnes. On est dans le même engagement, parce que dans la réalité, c'est aussi un milieu où on est plutôt... voilà, il y a un côté engagé, hein, un côté un peu militant dans ce qu'on peut faire. Et l'association, la direction et l'association dans sa globalité a un côté militant et engageant. Ce qui permet aussi... à l'inverse de l'entreprise pour laquelle je travaillais avant, là, d'être complètement en adéquation avec mes valeurs. Je sais qu'on ne sera pas dans la maltraitance des personnes qu'on accompagne. Je sais, par exemple, que ma directrice ne répondra pas à des appels d'offres sur des dispositifs où elle estime que le taux d'encadrement n'est pas suffisant.
Oui, bien sûr.
Elle n'a pas la possibilité, elle ne répondra pas à cet appel d'offres à tout prix. Elle préférera effectivement être dans de bonnes mettre les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées dans les meilleures conditions possibles. Et ça change, et c'est agréable, et ça fait partie de bonnes conditions de travail, en tout cas.
En préparant le podcast, ton épisode, on a un peu échangé sur l'accueil des étrangers en France.
Oui.
Est-ce que tu peux nous livrer un petit bout de ton ressenti sur ça ? Tu m'avais dit une phrase hyper puissante, j'ai trouvé en tout cas, quand on a échangé, c'est que sur certaines préfectures où tu as pu œuvrer, tu avais un peu le sentiment que c'était au premier qui craquera.
Oui. Bah là, c'est mon côté un peu militant qui parle, hein, parce qu'il y a des situations de famille où effectivement, alors il y a certainement peu de moyens qui sont mis dans les bureaux d'admission et séjour de certaines préfectures. Et en l'occurrence, certaines avec lesquelles j'ai travaillé ont actuellement un délai d'attente pour avoir des réponses entre 24 et 36 mois.
Énorme.
Où les dossiers sont perdus, où il n'y a pas de réponse, où il manque des documents. C'est vraiment cette impression-là de... c'est au premier qui craquera. C'est au premier qui... de voir combien de temps les gens vont finir par tenir sans être désespérés et rentrer dans un pays où ils n'ont plus rien. Mais pas que forcément les préfectures. Je trouve que là, en France, dans l'accueil des étrangers, on est dans de la maltraitance administrative permanente. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'une assurance maladie de base, c'est extrêmement compliqué. C'est des délais qui sont extrêmement longs. J'ai vu des situations où les gens sont malades et n'ont pas d'assurance maladie pendant 6 mois. Pour justement uniquement des problèmes administratifs, parce qu'on demande de plus en plus de documents, de plus en plus de justificatifs, pour des gens qui, je le rappelle, n'ont rien et vivent à l'hôtel, vivent avec, quand ils ont de la chance, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand ils ont de la chance, vivent avec 4 euros par jour par personne. On est si je reparle de la préfecture, avec des non-réponses. Je parle des délais, mais il y a aussi le fait que on ne répond pas au courrier. Enfin, la préfecture ne répond pas au courrier. La préfecture ne répond pas au téléphone. La préfecture
ne répond pas au mail.
La préfecture ne te laisse pas rentrer dans la préfecture. Les gens n'ont aucun moyen. Et même nous, on est complètement démunis d'avoir une réponse, parce que parfois même une réponse négative, c'est pas satisfaisant pour les personnes, mais ça permettrait de se projeter différemment. Là, l'attente et la non-réponse, c'est de la torture presque.
C'est ça, c'est fou.
Parce que le mot est fort, mais c'est comme ça que les personnes peuvent le vivre. Ça fait partie aussi du travail d'essayer de c'est horrible de dire ça, mais de gérer les émotions des gens, parce qu'on va essayer de les apaiser quand elles montent et qu'elles sont très en colère. Alors que parfois, j'aimerais presque leur dire bon, allez-y, allez-y à la préfecture, et puis oui, criez. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais peut-être ça vous fera du bien. Bon, évidemment, je leur conseille pas de faire ça.
Ça les dessert directement. Par contre, là, ils vont vite avoir une réponse qui va être celle de la justice, et ça les dessert forcément.
Mais en plus, je dis ça, mais ça fait écho à d'autres situations. Moi, j'ai déjà assisté, parce que la préfecture a déjà quand même réussi à m'appeler. Ils y arrivent dans un sens. Pour une dame qui était en train de faire un scandale en plein milieu de la préfecture, qui pétait un câble par rapport à sa situation, et c'était complètement entendable. Ça faisait plus d'un an et demi qu'elle était en attente d'une réponse. Ses enfants étaient placés à cette époque-là. Enfin, et la dame a complètement décompensé en plein milieu de la salle d'attente de la préfecture. Et donc, j'ai dû y aller en quatrième vitesse pour essayer de récupérer ma petite dame. Et c'est là où après coup, sur le coup, c'est horrible, parce qu'on ressent toute sa souffrance et qu'on voit des murs autour. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'êtres humains qui sont en capacité d'essayer de trouver une solution, ou ne serait-ce que de la renseigner sur le fait que son dossier soit bien en cours, mais que c'est que des murs. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
tu ressentais sa souffrance, mais quand, oui. En même temps, il y avait...
Et en même temps, le côté comique, c'est que... et c'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'après coup... là, tu vois, aujourd'hui, je trouve ça extrêmement drôle, parce que je me suis retrouvée assise en tailleur, en plein milieu de la préfecture, avec une dame qui se mouchait dans mon t-shirt. Enfin, c'est aussi des choses qu'on vit, je pense, qu'en étant travailleurs sociaux.
C'est vrai que des fois, on se retrouve dans des situations un peu cocasses, et a posteriori, on se dit « punaise, vraiment, j'ai fait ça ». Oui, on a fait ça. J'avais une question du coup qui m'est venue au fil de vraiment pour essayer de faire entrevoir aux personnes qui sont très extérieures à ce milieu, soit dans le travail social ou qui sont vraiment extérieures au travail social. Quand tu travailles dans la migration, alors de manière générale, je trouve qu'on doit dans tous les milieux où on œuvre être assez spécialisé. Puisque tu passes d'un champ à l'autre, tu passes de la migration au handicap ou à la gériatrie, comme tu l'as fait, finalement, ça peut être trois métiers différents. Mais tu dois quand même être très spécialisé, calé sur ce qui existe. Et je voulais savoir, toi, si tu partageais le fait que dans la migration, tu as quand même une lourde responsabilité sur le droit. Au séjour, le droit des étrangers, qui vient rajouter un peu sur tes petites épaules d'assistante sociale une charge et une responsabilité énorme qu'on mesure pas forcément, mais où tu dois être très experte en droit et presque juriste en fait pour œuvrer auprès de ces personnes.
Eh ben écoute, je l'avais jamais perçu comme ça.
C'est vrai.
Mais je l'ai jamais perçu comme une charge, mais je pense qu'effectivement, tu as raison, que c'est une grosse responsabilité. Mais jusqu'à maintenant, je l'avais jamais perçu comme ça. Alors effectivement, il faut des connaissances qui arrivent petit à petit, et c'est vrai qu'il faut maîtriser les procédures, parce que si tu les maîtrises pas, ça risque de mettre à mal les personnes que tu accompagnes. Mmh. Et c'est du travail. Après, heureusement, il y a des formations, et heureusement, les associations qui ont ces dispositifs-là, souvent, sont quand même consciente qui a besoin de formation et en propose à leurs salariés. Mais oui, tu as raison, c'est quand même une sacrée charge.
Du coup, c'est drôle que tu l'aies... Enfin, c'est toute la richesse des rencontres qui se passent ici, c'est qu'on se rend compte qu'on ne voit pas les choses forcément du même angle sans être en désaccord, hein, mais voilà, on n'a pas forcément
perdu. En fait, je pense que comme j'ai énormément travaillé dans ce milieu-là, je ne me rends pas bien compte de la différence par rapport à une autre spécialisation.
D'accord. C'est bon. Quand j'ai accueilli des étudiantes, c'était des jeunes femmes en général, ouais, que des jeunes femmes, elles étaient souvent un peu paniquées par les connaissances tant sur la régularisation, le droit au séjour, que sur la spécificité un petit peu des documents qu'on pouvait demander à chaque pays. Donc, je me souviens qu'on disait que oui, on était presque, on devrait presque être juriste ou avoir un juriste dans les services pour être sûr du bon titre de séjour dont tu fais la demande, etc. Et des recours.
Après, tu vois, moi, je crois que je me suis aussi toujours dit, enfin, j'ai toujours, c'est comme ça que je disais à mes stagiaires. C'est déjà, bon, quand c'était en stage, donc elles avaient bien le temps de se faire à la complexité du droit des étrangers. Mais surtout que moi, je ne sais pas tout, mais que ce qu'on m'a appris à l'IRTS, c'est aller chercher l'information. Et que ça, c'est quand même une vraie richesse, parce que, en plus, les lois, elles changent à une vitesse... on l'a bien vu, j'ai l'impression d'être une vieille assistante sociale de 40 ans, ce que je veux dire, mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça.
C'est vrai.
Je n'avais pas l'impression d'être vieille dans le métier, mais si. Il y a tellement de choses qui ont changé. À chaque fois qu'il y a un gouvernement différent, il y a deux nouvelles lois qui sont faites sur la demande d'asile, sur le droit des étrangers. Et donc, il faut être. C'est là où, du coup, si des étudiants nous écoutent, c'est là où c'est important les politiques sociales.
C'est vrai.
Moi, je l'ai compris grâce à ce public-là. Les politiques sociales, c'est très important à ce niveau-là.
C'est vrai. Complètement.
Mais oui, voilà, ce que l'IRTS nous apprend, c'est aussi aller chercher l'information. Et donc, on la trouve. Et si nous, on n'a pas ces connaissances-là, eh ben, c'est là où il faut aussi se créer un réseau, effectivement, de juristes, d'avocats qui pourront. T'orienter et réorienter les personnes de la meilleure manière possible.
Bien sûr, puisque du coup, on a quand même entre nos mains leur régularisation.
Oui.
Sur le sol français, leur protection. Ouais. Du coup, ce que tu disais avant sur ce qu'on nous apprend à l'IRTS, ça va me permettre de faire le lien avec la question que l'invité précédente t'a posée. Mais avant ça, j'avais deux, trois petites questions. Si tu devais faire autre chose que assistante sociale et assistante sociale auprès de migrants, qu'est-ce que tu imaginerais faire, aurais envie de faire ?
Je pense que j'aurais pu, plus aujourd'hui, mais je pense que j'aurais pu me tourner vers des études de droit pour justement. Être avocate ou quelque chose comme ça. Après, réellement, aujourd'hui, je pense que si je devais faire autre chose, ça serait plus de la formation.
Ouais.
Donc, c'est toujours un peu trop dans le travail social. Mais ou alors quelque chose de complètement différent et de plutôt manuel.
Ok.
Voilà, sans idée précise, parce que j'ai du mal à me définir autrement que dans le travail social.
Ok. Si tu avais la fameuse baguette magique, dont parfois on rêverait sur certaines situations, qu'est-ce que tu en ferais ?
Eh bien, je dis réfléchis, figure-toi. Faut vraiment réussir à avoir tout ce que je veux. Et je crois que j'essaierais de. Enfin, j'aimerais avec cette baguette magique que les décideurs ou que le monde entier, en tout cas, enfin que la majorité des citoyens voient les personnes qu'on accompagne avec nos yeux de travailleurs sociaux.
Mmh.
Que j'aimerais beaucoup que les gens comprennent. Pardon ?
Notre vision déformée de...
Oui.
C'est une très belle utilisation de la baguette magique. Voilà. Voir tout ce que... On ne dit pas qu'on voit absolument tout ce qui se passe, mais je suis convaincue.
Non, mais la manière dont on voit les choses, en tout cas.
De la manière...
Ce qu'on perçoit, ce qu'on peut... Ce qu'on peut comprendre... D'aller au-delà de la superficialité, c'est ça que je voulais dire comme mot. D'aller au-delà de ça et de voir les gens avec leurs problématiques, mais aussi avec tout ce qu'ils apportent au monde et l'importance qu'ils peuvent avoir.
Trop chouette. L'invitée précédente, du coup, t'as posé une question qui était, comme je disais tout à l'heure, très en lien avec ce que tu évoquais, ce que les différents instituts de formation en travail social nous inculquent. Donc toi, tu disais, ils nous inculquent quand même d'aller, de se créer un réseau, d'aller chercher l'information quand on ne l'a pas. Parce qu'effectivement, on ne peut pas tout emmagasiner, tout savoir, et ça, tout est toujours très en mouvement. Pour elle, sa question, c'était qu'est-ce qui t'a manqué dans ta formation ? Est-ce qu'il y a des choses essentielles que tu as apprises sur le terrain après ta formation que tu aurais bien aimé apprendre ou connaître à l'IRTES ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment des choses qui m'ont manqué. Parce que je trouve quand même que notre formation elle est vraiment bien faite avec l'alternance du lieu de stage et de l'analyse des situations professionnelles. Après, pour intervenir un tout petit peu aussi à l'IRTS, je crois que il serait nécessaire de justement axer encore plus sur les différentes problématiques qui puissent être rencontrées sur certaines spécialités, mais aussi et surtout sur toutes ces notions de temporalité. Et de respect de... Enfin, là, en tout cas, ce que j'ai beaucoup vu, moi, ces derniers temps, et je pense que j'ai eu du mal aussi à le comprendre en tant que jeune professionnelle et qu'étudiante, c'était aussi en termes de positionnement. Alors, on nous l'apprend un petit peu à l'IRTS, mais pour ma part, je pense que c'était pas acquis en sortant de l'IRTS. Et de pas être le sauveur de la Terre et d'être justement dans le respect de la temporalité des personnes et de l'utilisation de leur potentialité et d'accepter que ce qu'on pense qui pourrait être bon pour une personne n'est pas réellement parfois ce dont elle a besoin.
C'est vrai, après c'est un peu un passage obligé, un espèce de baptême du feu, parce qu'on est plein de fougue quand on sort, on a envie et c'est
normal
aussi, c'est positif, mais c'est vrai que on se confronte parfois vite, on se dit mais pourquoi ça fonctionne pas, j'ai pourtant tout fait pour que la personne et elle y va pas. Oui, peut-être normal, peut-être des choses à réfléchir, à analyser. Ok, c'est intéressant, en tout cas. C'est des notions sans être des cours à proprement parler, mais des notions qui sont assez fondamentales du coup dans le...
Oui, mais je trouve que de multiplier les échanges, d'avoir des groupes d'analyse de pratique, je trouve que c'est vraiment les choses aussi les plus riches.
Oui, c'est vrai.
De pouvoir analyser les différentes situations et comprendre justement ce qu'est l'analyse, se repositionner et avoir différentes visions des choses. Je trouve que c'est là où on avance.
Complètement, je suis d'accord. Je vais te laisser poser du coup ta question au prochain invité.
Alors, ma question au prochain invité, ce serait, si tu avais la possibilité de créer un dispositif qui aujourd'hui n'existe nulle part, quel serait-il ? Sans limite de budget et de sans... Voilà. Dans un monde merveilleux, on a tout le budget et tous les moyens humains et matériels nécessaires. Quel serait le dispositif idéal ?
Ok. Eh ben je tâcherai de lui poser cette question. C'est drôle parce que c'est une question qui a déjà été posée. Je trouve que ça dit quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qu'on ferait de fou si on avait full budget et full moyen humain et vers quoi on tendrait. C'est hyper intéressant. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Margot, pour ton témoignage hyper riche et intéressant. J'espère que ça pourra un petit peu éclairer les personnes qui se posent des questions sur la migration, sur comment on accompagne ces personnes qui traversent le monde pour venir jusqu'à nous. Et j'espère que tu vas continuer à être passionnée comme tu l'es, parce que tu parles vraiment avec passion de ton métier et ça fait du bien. Voilà.
Bah, merci à toi pour ton accueil et pour ces échanges qui étaient fort intéressants et effectivement fort passionnés, mais comme tu dis, j'ai pas réussi à le cacher.
Et mais tant mieux que tu aies réussi. Merci Margot et à bientôt.
Merci à toi, à bientôt. You're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice, for unstoppable.